Justice humaine par Binet Valmer. Si je n'étais romancier, je voudrais être avocat, non point pour jouir de la vanité d'émouvoir un jury, mais pour augmenter le trésor de pitié qui fait la richesse d'un homme, et m'en aller au profond des âmes en écoutant le secret gémissement des criminels. Tous les confesseurs m'attirent irrésistiblement, et c'est pourquoi j'ai tant d'amis parmi les prêtres et les médecins. Pourtant, de tous ceux que j'interroge afin qu'ils nourrissent mon imagination et renouvellent ma sensibilité, le plus généreux en pathétique récit est sans doute ce maître du barreau que je vais vous présenter sans vous donner son nom. Il a dépassé la cinquantaine, de taille assez noble, bien qu'il soit un peu trop maigre quand la robe n'enveloppe pas son corps nerveux, le visage glabre, la bouche largement dessinée et volontiers frémissante. Il semble conserver dans le regard de ses yeux, presque aveugles tant ils sont myopes, le souvenir de toutes les êtres saines auxquelles il assista. Parfois il m'accorde le privilège d'une plaidoirie qu'il n'a pas prononcée. Ce fut ainsi l'autre soir, sur cette plage où nous écoutions jaser le flot sans violence de la Méditerranée. « Il y a près de 20 ans, » m'a-t-il dit, et c'était au lendemain de mon premier acquittement. La presse avait parlé de moi. D'autre part, la mère de ma femme était la petite cousine de ce malheureux que j'avais la charge de défendre. Ce professeur, le professeur X, fis-je en l'interrompant, je ne me trompe pas. D'un coup de revolver, il avait abattu son épouse, qui ne voulait pas reprendre la vie commune. Elle l'avait trompé. Elle proclamait sa volonté de refaire sa vie avec son amant. Nous en avions la preuve, des lettres signées d'elle, des lettres violentes, dans lesquelles paraissait, avec une sincérité aussi déconcertante que magnifique, la passion, une sorte de folie sexuelle. Cette amoureuse ne manquait pas de grandeur. Elle était trop occupée de soi pour rien reprocher au mari qu'elle trahissait. Les jurés sont souvent menacés dans leur ménage par de tels accès de frénésie. Il suffit de leur montrer le danger qu'ils courent. Leur verdict est certain si le meurtrier n'a pas prémédité son acte. La qualité de mon client, son intégrité, le poids de l'œuvre qu'il avait déjà écrite, sa fidélité, sa chasteté même, tout son laborieux passé enfin me garantissait un triomphe facile. De victoire en une année, voilà qui m'enchantait. Il m'en souvient, mon cher maître, aux eudes, chut, mon bon ami, n'allez pas si vite. J'eus l'occasion de descendre et d'errer sur les rives du Styx. Pendant quelques heures, la veille du jour, je devais plaider. Je visitais l'enfer. Le professeur m'avait fait appeler. Il me dit « Je ne veux pas que vous plaidiez. Quand on vous donnera la parole, c'est moi qui parlerai. Vous avez tort, » dis-je à mon client, « quoique je ne doute pas du résultat. » Il me posa la main sur l'épaule. « Je voudrais ne pas en douter, » me répondit-il. « Je suis décidé à leur démontrer qu'il y eut préméditation. » Était-il devenu fou? J'avais tout lieu de le croire. Durant nos dernières entrevues, il avait refusé de me documenter sur son affaire. Il s'était dérobé à mes questions, et il n'avait paru soucieux que de ce qui se passait au dehors de la prison, dans cette société humaine dont il était comme retranché. C'était un remarquable psychologue. Il avait construit solidement dans le silence de la prison le roman d'un jeune intellectuel qui épouse, privé de tout esprit critique par un coup de désir, une jeune fille que le désir de vivre prive de tout esprit critique. Elle n'aurait pas dû. Mais moi, je n'aurais pas dû. Je me suis trop vite remis au travail. Elle est devenue l'ennemi de son rival. Très simple, mon bon ami, mais la suite est digne de vous intéresser. Le rival commence à le haïr. Et voici où naît la préméditation. Mon client s'en accusait. J'ai commencé de penser, il y a des années, que je devais choisir entre cette femme et celui que je voulais devenir, et je lui ai montré, petitement, avec des procédés laids, quel était l'obstacle. Elle lui répondait qu'il avait raison. Elle lui proposait de partir, elle osa même prendre des vacances. Il la rappela. Il ne pouvait plus travailler sans elle, qui l'empêchait de travailler. Et il se méprisait de subir cette obligation dont elle était l'esclave, une esclave révoltée, prête à l'évasion. La jalousie s'empara de lui. « D'où viens-tu? Qu'as-tu fait ?» Elle donnait l'emploi de son temps, il la traitait de menteuse, elle se rebiffait, il la menaçait. La tête contre ma tête, il m'a dit « J'ai été un bourreau, je l'ai tué 10 fois, avant le jour où je l'ai tué. Et pierre à pierre, il construisit son propre tombeau. Quand elle est partie, il n'était que temps. Je songeais à un double suicide. Mes deux amours ne me permettant plus d'exister, je voulais disparaître, par dégoût de moi, et je ne voulais pas qu'elle me survécût, par amour pour elle. Je n'aurais pu travailler sans elle, je ne pouvais plus travailler auprès d'elle. J'avais déjà acheté le Browning. Je le prouverai au juré. J'ai prémédité l'assassinat. Il m'arrivait de m'éveiller la nuit en m'écoutant dire « je la châtirai ». La pensée du meurtre était en moi. Elle se forme lentement chez les êtres. D'ailleurs, personne ne commet un crime du premier coup, même l'alcoolique, même le dément. C'est une succession d'images de plus en plus nettes. Je dirais cela, il faut que je dise cela pour que l'on cesse de pardonner sous prétexte d'irresponsabilité entraînée par l'alcool, par la fureur ou l'instinct de vengeance. Ainsi me parlait-il, et il n'élevait pas la voix, mais je l'écoutais avec épouvante, car vraiment il entassait les pierres de son tombeau. Je résume son tragique discours. Il avait tué pendant des années, et si on l'acquittait, ce serait le pire des châtiments, mon cher maître. Certes, mais il n'y songeait pas. J'ai vu d'autres criminels qui n'en pouvaient plus de même et qui m'ont supplié en gémissant « comme c'est long ». Celui-là n'avait aucune hâte. Il obéissait à sa terrible intelligence de savant épris de justice et il répétait, acharné à conclure logiquement, « Non, non, ce ne fut pas une impulsion, je l'avais déjà tué quand je l'ai tué. » Que lui répondre ? Que lui avez-vous répondu ? J'ai trouvé la seule phrase qui pouvait l'atteindre, et je suis plus fier de l'avoir imaginé que je ne suis orgueilleux de tous mes plaidoyers. Je lui ai répondu. « Alors il vous fait expier. Vous n'avez pas encore le droit de la rejoindre. » Il m'a écouté. Il a gardé le silence, puis lentement, « Expier. Je n'ai pas encore le droit. » Et il a baissé la tête. J'ai vu bouger ses lèvres. Il m'a semblé qu'il murmurait. « Peut-être. » Il s'est redressé. Il m'a regardé avec effroi. « Vous avez raison, il faut expier. » Et il m'a laissé plaider, gardant aux assises une attitude si noble que je n'eus pas de peine à triompher. Le jury délibéra quelques minutes à peine. Crime passionnel, acquittement à l'unanimité. En moins d'une année, j'avais triomphé deux fois. Et lui, je l'ai perdu de vue. Je crois qu'il attend dans quelque retraite d'avoir mérité de la rejoindre. Devant nous s'étendait la Méditerranée au souffle court. Mon ami se tut un instant, puis de sa belle voix chaude. Le Styx. Il n'y a que sur ses rives que s'épanouissent ces fleurs-là. C'était Justice humaine par Binet Valmer.